Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Non, c'est pas Thierry Garcin aujourd'hui, c'est Xavier Martinet qui le remplace toute cette semaine. Bonjour Xavier.
Rebonjour Émilie.
Et on commence la semaine avec Chypre et cette question, se dirige-t-on vers une réunification?
Oui, des espoirs de réunification en tout cas. Bonjour Gilles Bertrand.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Bordeaux, chercheur au Centre Émile Durkheim. Donc des espoirs de réunification à Chypre, en tout cas un bilan positif, une échéance et puis de la bonne volonté. On pourrait dire que c'est le résumé des déclarations officielles après cette rencontre hier à l'ONU entre le secrétaire général Ban Ki-moon et puis les présidents des deux parties de Chypre, Nord et Sud, Nikos Anastasiades et Mustapha Akinch. Le dirigeant de la partie turque parlait même ainsi d'une feuille de route pour Chypre. Alors après l'échec du plan Annan en 2004, un précédent plan de réunification, ce serait donc le plus sérieux espoir d'un règlement politique à la division de l'île. La fin de l'année 2016 est évoquée comme une perspective crédible. Je vais être rapide, je rappelle juste quelques dates. 1974, le coup d'état des nationalistes grecs, la réaction turque et l'invasion de la partie nord de l'île par l'armée. 1983, la République turque de Chypre du Nord qui proclame son indépendance. Seule la Turquie, je le souligne, l'a reconnue jusqu'à ce jour. Et donc jusqu'à aujourd'hui, Chypre est toujours divisée en deux entités. Il y a une zone tampon contrôlée par l'ONU. L'île fait bien partie de l'Union européenne depuis 2004, mais 2004, je l'ai dit, c'est l'échec d'un précédent plan international, celui de Kofi Annan. Donc cette fois-ci, on ferait face à une tentative crédible. En tout cas, peut-être la première question, Gilles Bertrand. Ce qu'on voit, c'est que le processus qu'on pensait mort et enterré depuis 2004 environ, aujourd'hui, 10 ans ou un peu plus après la reprise, il a été relancé en 2015, on voit qu'il est allé assez vite.
Oui, le processus a été assez vite parce que pour la première fois depuis 2003, en fait, il y a deux présidents de part et d'autre de la ligne qui sont des partisans du plan Annan. C'est-à-dire que Nikos Anastasiadis est le successeur à la tête de son parti du président Glafkos Kleridis, qui a été effectivement président jusqu'en 2003 et qui était un partisan du plan Annan. Et ça a été une des tragédies pour le plan Annan, c'est qu'ensuite, à l'élection présidentielle de 2003, le nouveau président Tassos Papadopoulos était un adversaire du plan Annan, donc il a torpillé le plan Annan, hein, on peut le dire. Et de l'autre côté de la ligne, c'est Mustapha Akinci qui a bâti toute sa carrière politique sur la réconciliation avec les Chypriotes grecs, depuis 1975 où il était devenu maire de Nicosie. Qui a connu plusieurs traversées du désert, mais qui n'a jamais varié dans cette position.
Ouais, c'est ça, donc on comprend qu'il y a eu une nouvelle donne politique, notamment grâce à l'élection présidentielle, que les nationalistes ont perdu du terrain. Je le disais en introduction, Mustapha Akinci, donc le nouveau président de Chypre Nord, a parlé d'une feuille de route. Est-ce que c'est le seul à en avoir parlé? Est-ce qu'il vous semble plus pressé que le président de la partie grecque de Chypre? Ou alors, est-ce qu'il faut croire à cette feuille de route?
Ah oui, non, je pense qu'ils sont tous les deux pressés. Tous les deux ont mis l'accent sur le fait qu'ils souhaitaient conclure un accord avant la fin de 2016. Mustapha Akinci, encore plus peut-être que Nikos Anastasiadis, parce que Mustapha Akinci craint en 2017 le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle côté chypriote grec. Et cette élection présidentielle aura lieu en 2018, mais il craint le début de la campagne électorale et le fait que Nikos Anastasiadis se retrouve les mains liées pendant cette campagne électorale.
Donc on a bien fait d'évoquer cette nouvelle donne nationale, on pourrait dire interne, pour un pays qui fait 1 200 000 habitants, je le rappelle, mais ce qu'il faudrait peut-être souligner aussi, c'est cette nouvelle donne internationale. Alors, je l'ai dit déjà en introduction, la partie nord de Chypre a été envahie par l'armée turque en 1974, elle est toujours occupée par l'armée turque, c'est 30 à 35 000 soldats environ. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'attitude des gouvernements turcs, notamment du président Erdogan. En 2015, il parlait encore de mère patrie pour parler de la Turquie relativement à Chypre. Et puis là, il a rencontré Mustapha Akinci en août et il s'est dit pour une solution juste. Il y a eu un changement d'attitude de la part du président Erdogan?
Pas vraiment. C'est-à-dire que le président Erdogan, dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2002, a tenu un discours qui était en rupture avec le discours des gouvernements turcs précédents. Donc le discours, quand il parle de mère patrie, à vrai dire, bon, c'est le discours qui a toujours été employé par les dirigeants turcs. mais c'est plus pour souligner qu'effectivement il y a un lien entre la Turquie et les Chypriotes turcs et que la Turquie n'est pas disposée à abandonner entre guillemets les Chypriotes turcs. Hein. Ça c'est plutôt ça. Mais en fait, dès 2002, Recep Tayyip Erdogan avait étonné tout le monde en disant qu'il n'était pas d'accord avec la politique que la Turquie avait adoptée à Chypre depuis 1974.
Parce qu'il avait voulu rompre avec les nationalistes. On dit par exemple que le Nord a été le précaré de l'armée turque pendant un certain temps. C'est toujours vrai ?
Oui, alors oui, effectivement. L'armée turque était effectivement la maîtresse de la situation à Chypre Nord, plus que le gouvernement d'ailleurs, d'autant que dans les années 90, le gouvernement turc était très instable. Il changeait souvent et que la force permanente, c'était l'armée, que l'armée avait connu en 1974 à Chypre son premier succès depuis la fin de l'Empire ottoman, hein, même depuis plus longtemps que la fin de l'Empire ottoman. Donc pendant longtemps, l'armée ne voulait pas entendre parler d'un retrait de Chypre.
Oui, c'était symbolique, oui.
Voilà, sauf que en 2004, dans la dernière version du plan Annan, il était que la Turquie avait accepté, il était prévu que l'armée turque se retire. Si le plan Annan avait été appliqué, l'armée turque se serait retirée par étapes en 2011 et en 2018.
Donc reste à voir ce qui est prévu par l'accord. D'ailleurs, on en sait peu. Toujours est-il que la Turquie c'est effectivement a des intérêts. Elle a même raccordé, je crois, Chypre à l'eau en octobre dernier 2015. Ça a été controversé. Pour ce qui est du contenu de l'accord, on a quand même quelques points qui sont connus officiellement et puis à travers les journaux. Officiellement, on parle de progrès sur la gouvernance, le partage du pouvoir. On dit que 4 libertés seront respectées, la propriété, l'habitation, la circulation, le travail. On en sait un peu plus sur cet accord et dans quel état il est pour l'instant, qui l'a signé, si on en est encore aux négociations, si on a un document complet.
Pour l'instant, c'est relativement flou, puisque même Mustafa Akıncı s'est plaint que dans son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, donc ce mois-ci, le président Anastasiadis fait des approximations sur les points qui restaient à négocier et les points qui avaient fait l'objet d'un accord. Effectivement, les 4 libertés dont vous parlez sont très importantes, puisque l'île est officiellement entièrement dans l'Union européenne, mais l'acquis communautaire ne s'applique qu'en zone sud. Pour qu'il y ait une vraie réunification, il faut que la zone nord applique l'acquis communautaire, et donc ces 4 libertés sont indispensables.
Donc il y a encore beaucoup de choses à régler, et notamment au-delà des libertés, il y a aussi la question de la proportion de populations turques et grecques qui doivent exister dans chacun des États et les postes relatifs.
Oui, alors ça, je pense que c'est des questions qui sont négociées depuis 1974. Je ne crois pas que ce soit là le point d'achoppement principal. Le point d'achoppement principal vient plutôt de la question de la sécurité, où là, pour l'instant, on est face à un désaccord relativement profond, puisque du côté des Chypriotes grecs, on espère la fin de l'occupation militaire turque, et on cherche des solutions, et du côté Chypriote turc, on est assez réticent, puisque Mustafa Akıncı a annoncé qu'il voulait le maintien du traité de garantie de 1960. Traité de garantie qui dispose que il y a 3 puissances garantes, la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni. Et la Grèce et la Turquie ont le droit de stationner un contingent de troupes, assez minimal d'ailleurs, mais ont ce droit. Et Mustafa Akıncı, manifestement, s'il fait cette déclaration alors que par le passé il était plutôt pour le retrait des troupes turques, c'est qu'il faut qu'il fasse un compromis d'abord avec les partis nationalistes qui sont assez forts au Parlement. Il y a un premier ministre nationaliste à Chypre Nord. Et d'autre part, avec la position d'Ankara.
Avoir les développements donc nationaux et internationaux, et puis l'appui que pourra apporter Kofi Annan, on en reparlera certainement prochainement. Merci beaucoup, en tout cas, merci. Gilles Bertrand, je vous le rappelle, maître de conférence à Sciences Po Bordeaux.
Et merci à vous, Xavier Martinet. On se retrouve demain, direction l'Afghanistan.
L'Afghanistan, oui, ce sera les 20 ans de la prise de Kaboul par les talibans.